Paso doble.
Paso doble.
Jeudi, polar.
Un polar, non, mais 9 petites nouvelles au style très noir. Voilà, des histoires de terreur, une terreur sourde. S'il fallait trouver un genre, on dira plutôt thriller. Bonjour, Romain Slocombe.
Bonjour.
Avec Emma Tom, vous réunissez des nouvelles parues ces 10 dernières années, je crois.
Oui, à peu près, ouais. Ouais.
Alors, on dit que vous réécrivez à chaque fois que vous rééditez vos nouvelles.
Ah bah, de toute façon, je pense qu'une réédition ou même une édition pratiquement neuve, parce que très peu de gens connaissent ces nouvelles, sous un format en plus poche, c'est l'occasion pour un écrivain de relire ce qu'il a écrit, de corriger des petites choses qui ont pu lui être signalées, et puis de retravailler le style. En plus, il y avait une nouvelle qui était parue en Angleterre, donc j'avais écrite en français à l'origine, mais je l'ai entièrement reprise. Certaines sont pratiquement identiques à la forme qu'elles avaient quand elles sont sorties, d'autres ont été retravaillées.
Et Emma Tom, c'est le titre d'une des 9 nouvelles, et c'est le titre de ce recueil, édité par Belfond, Romain Slocombe. Est-ce que ces nouvelles partent toujours plutôt d'une commande, du support, par exemple pour Le Monde de l'été, quand ils faisaient les polars, ils ont commandé des nouvelles. Est-ce que vous pensez, oui, à celui qui vous commande la nouvelle? Est-ce que le fait que ça vienne d'un support, ça vous influence ou pas?
Pas vraiment. En revanche, c'est vrai que ce sont toutes des commandes. Parce que moi, je suis plutôt un écrivain de romans et j'aime bien les romans touffus, 400, 500 pages, ça me fait pas peur, en tant que lecteur comme en tant qu'écrivain. Et la nouvelle, c'est un exercice très difficile. C'est très court, il faut trouver une chute, etc. Il faut avoir une bonne idée, une idée qui n'a pas besoin d'être développée sur des centaines de pages.
Et en même temps, ça doit être plutôt excitant parce que ce style, la nouvelle, que j'aime beaucoup, mais qui ne marche pas, pour dire les choses franchement,
oui, en France.
Et, oui, c'est un format qui n'existe pas dans le polar. Ou alors très peu.
Voilà,
alors je ne suis pas au courant. Alors,
on a quelques grands nouvellistes comme Marc Villard, par exemple, qui sont vraiment spécialisés dans les nouvelles. Mais on en a très très peu. Et c'est vrai que le public a une certaine désaffection pour ce genre. C'est vraiment regrettable. Moi, je suis moitié anglais et ma mère me parlait toujours quand j'étais petit des nouvelles, de la chute, le twist à la fin, etc. La torsion, la surprise finale. Mais en écrire, c'est encore une autre histoire. Et donc, effectivement, j'en écris quand on m'en commande une et c'est surtout bon, on va trouver une idée et puis donc souvent je suis influencé par un fait divers que j'ai lu à ce moment-là ou tout à coup je me rappelle une arnaque dont j'ai été victime et que comme l'histoire par exemple de l'insecticide pour les charpentes et je me dis ah, ce serait drôle de faire un client qui se venge des gens qui l'ont arnaqué, enfin voilà.
En tout cas, quand on commence ce recueil de nouvelles, le livre s'ouvre sur quelque chose de très glaçant, hein, quand même, travailler avec les morts. C'est le métier du personnage de la première nouvelle.
Oui, on l'a mise en premier, cette nouvelle, exprès justement pour donner le ton très, très noir. Et donc c'est celle qui s'intitule Le Corbeau. C'est une histoire un peu de lettres anonymes. Et je cherchais la profession de... En plus, c'est quelqu'un qui est un peu suicidaire, un peu flippé, et donc qui est victime donc de ces espèces de lettres mystérieuses que lui envoie une personne mystérieuse. Et donc il fallait une personnalité un peu fragile, une personnalité un peu traumatisée. Et j'avais lu dans une petite revue intellectuelle très bien où il y avait des interviews un peu qui sortaient de l'ordinaire. Il y avait l'interview d'un thanatopracteur que j'avais trouvé absolument fascinante. Et je me suis dit, ben voilà, mon personnage va faire ce métier-là. Et puis comme il en parlait, donc j'apprenais des choses du point de vue technique.
Un métier qui consiste à rendre présentable un cadavre.
Voilà, voilà, ce sont les embaumeurs de maintenant.
Et là, ça se passe dans la campagne normande. Est-ce que la géographie est très importante pour vous, la géographie et l'époque? Parce qu'on va déambuler en France, on va traverser les époques, on va se retrouver à Paris dans les quartiers sud, à l'époque où il y avait un assassin en série, dans les quartiers de l'Est parisien, Guy Georges. Et là, c'est vraiment marqué les années 90. Est-ce que c'est très important pour vous? Vous partez d'où? Plutôt du personnage, de l'intrigue ou de l'époque et du décor?
Quelquefois ils sont liés, mais de toute façon, Pour moi, c'est très important que le lecteur sente vivre vraiment un peu tout ce que vivent les personnages. Et donc, le climat est important également, les lieux. Et donc, soit sont des lieux que je connais très bien, comme plusieurs nouvelles se situent en Haute-Normandie.
C'est chez vous ?
Oui, c'est là que j'écris mes livres. Et puis, quelquefois, ça peut être une région que j'ai découverte à l'occasion d'un voyage. J'étais invité par des bibliothèques dans la Meuse, par exemple. Et donc, toute l'histoire qui se passe du côté de Bar-le-Duc, en fait, j'y suis retourné plusieurs fois. Et donc, c'est vraiment le paysage, justement, ce département très vide, ces collines à perte de vue et qui, en plus, étaient les territoires de la Première Guerre mondiale. Ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Et là aussi, il y a eu un incident très bizarre dans un restaurant et ça m'a donné l'idée de cette nouvelle, celle qui s'appelle justement Hématome.
Donc, c'est un fait divers qui est à l'origine de vos écrits, de vos nouvelles ? Plutôt un fait
divers. Oui, bah souvent, oui. Bah, par exemple,
parce qu'on peut dire un fait de société, oui. Parce que vous parlez y compris du racisme.
Oui, tout à fait. Mais ça peut être un fait divers ancien, comme l'histoire, par exemple, d'un meurtre dans un commissariat. J'avais trouvé ça dans les dossiers noirs de la police française. Ça peut être un fait divers totalement par hasard. Je lis presque pas les journaux, mais quelquefois un journal me tombe sous la main et je regarde un fait divers et je vois un fait divers vraiment étrange qui était la base de l'histoire Éléonore, comme un type qu'on a retrouvé à Rouen traînant un cadavre mutilé, etc. L'histoire vraiment très 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 glauque et qui me paraissait un bon point de départ pour une nouvelle. Mais je trouvais que c'était intéressant, un flic amnésique qui a été pris dans une sale histoire de cadavre. Je trouvais ça intéressant comme point de départ aussi. Puis un asile psychiatrique. Et puis aussi la côte, oui, c'est un endroit que je connais un petit peu aussi, la côte dans cette région-là.
Quelle relation vous avez avec les personnages de vos romans, Romain Slocombe ?
Ah, pour moi, ce sont vraiment des rôles que j'endosse, en fait. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis un grand amateur des livres de Georges Simenon, et Simenon, c'est quelqu'un qui avait une écoute extraordinaire. J'ai écouté beaucoup de ses interviews et puis lu des témoignages de gens qui l'ont fréquenté. Et c'est vrai qu'il écoutait énormément. C'était un peu une éponge à histoire, une éponge à vie, les vies des autres. Et quand il écrivait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il écrivait des romans relativement courts, c'est parce qu'il disait qu'il pouvait pas supporter de rester plus de 9 jours, c'est-à-dire 9 chapitres, un chapitre par jour, avec ses personnages. C'était trop, il les ressentait trop intensément. Moi, je suis assez blindé, en fait. Donc, même des personnages extrêmement négatifs, ça me gêne pas d'endosser leur rôle pendant quelques mois, mais en fait j'endosse les rôles de tous les personnages.
Et ça dure combien de temps pour vous, Romain Slocombe, pour écrire une nouvelle, pour endosser le rôle d'un de ces personnages de votre univers glauque? Vous avez trouvé le mot juste.
Une nouvelle c'est court, donc c'est seulement quelques jours, je sais pas, une semaine, 10 jours pour une nouvelle, même moins quelquefois. Il y a un texte par exemple, celui qui s'appelle Sale temps pour les mouches, oui, qui est extrêmement court, il doit faire 5-6 pages. Et il écrit dans un style absolument glacé.
Vous êtes dans quel état quand vous écrivez ?
Oh, c'est un état très étrange. D'abord, j'écoute pas de musique. Enfin, j'écoute beaucoup de musique à d'autres moments de ma vie, en faisant la vaisselle, par exemple.
Vous faites la vaisselle, vous l'avez. C'est pas s'entasser.
Oui, j'aime bien. En fait, c'est un moment de création intense parce que j'écoute toujours un disque qui est en rapport avec le roman que je suis en train d'écrire. Par exemple, là, je suis en train d'écrire une série de romans qui se passe sous l'occupation à Paris, et je n'écoute que des chansons populaires de l'époque, des chansons de Rina Ketty, des chansons d'Edith Piaf, des anciennes chansons. Vraiment, je regarde même pour voir si c'est des chansons qui étaient déjà sur les ondes à cette année-là, et je m'en pénètre totalement. Par contre, quand j'écris, alors là, non, ça doit être le silence absolu. Sauf il y a des oiseaux, etc. Enfin, les bruits de la campagne, ou même, je sais pas, une tondeuse à gazon lointaine ne va pas trop me déranger. Mais par contre, pas de musique, parce que la musique, en fait, chaque morceau de musique a une certaine, un sentiment qui l'accompagne. Et moi, je veux pas être influencé par un sentiment prédéterminé. Il faut que le roman, la musique du roman surgisse toute seule.
Vous écrivez le matin, le soir, à jeun ou dans un autre état?
Alors j'écris à partir de la fin de matinée jusqu'au milieu de l'après-midi, mais d'abord je me lève tard, je prends un gros petit déjeuner pour ne pas avoir faim pendant que j'écris, et là les meilleures journées sont celles où je sais que je ne vais pas être stoppé par quelque chose, et de toute manière je saute le déjeuner.
Romain Slocombe, quand on lit vos nouvelles réunies par Belfond, sous les titres d'une de vos nouvelles d'ailleurs, Hématome, on n'a surtout pas envie de parler aux gens dans la rue, de faire confiance à ceux qui nous proposent une discussion, de nous aider. Est-ce qu'on peut imaginer que vous-même, l'auteur, vous êtes méfiant de tout et de tous?
Un petit peu, oui, c'est vrai, c'est vrai. Plusieurs de ces nouvelles sont basées sur des arnaques dont j'ai été victime. Et en fait, je me rends compte que quand on m'arnaque, je le comprends tout de suite. Mais c'est peut-être un côté un peu masochiste. En fait, je laisse l'arnaqueur m'arnaquer parce que je suis fasciné par sa technique, en fait. Et je me laisserai pas arnaquer une deuxième fois, j'ai bien compris. Mais la première fois...
Vous êtes incroyable, c'est quoi cet humour? Ça me rappelle cette nouvelle, justement, autour de l'affaire de Guy Georges, quand la fille qui, dans le 14e arrondissement, elle croit que c'est vraiment Guy Georges qui la suit, et elle envie juste, elle se dit, une fois que je serai morte, j'aurai l'air bête de lui dire, vous avez triché, je suis pas dans l'Est parisien. Mais c'est cet humour-là aussi qui traverse, vos nouvelles.
Oui, de toute façon, je pense que un écrivain de noir et qui veut avoir un peu d'humour dans ce qu'il écrit également a beaucoup de chance s'il a des origines à la fois britanniques et juives, et c'est mon cas en fait, parce que ma mère était anglaise et sa mère à elle était juive, donc je pense que c'est un atout. Donc c'est vrai que je suis fasciné par les malentendus culturels. Par exemple, à l'époque j'allais beaucoup au Japon, et donc ça me fascinait les malentendus entre les Asiatiques et les Français, et là finalement je m'aperçois, oui, tout le monde est un petit peu dans sa bulle, où tout le monde a en fait un but précis, et un peu comme dans le film de Woody Allen où on voyait en sous-titres ce que pensaient les gens, en fait. Et donc tout le monde finalement roule pour lui-même, et quelquefois ça peut causer des drames, mais en tout cas ça cause des malentendus. Et puis c'est vrai, oui, il faut quelquefois se méfier des gens proches. Il y a deux histoires justement où quelqu'un qui a l'air extrêmement amical, et dans le cas c'est même d'ailleurs le plus proche de l'une des protagonistes, se révèle sous un jour nouveau. Mais vous parliez de Guy Georges, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné quand j'ai lu un livre sur cette affaire. Je me suis rendu compte que, et ça c'est, moi je suis un garçon, donc j'ai pas particulièrement peur quand je rentre chez moi le soir et que je tourne la clé dans la porte, mais je me rends compte que pour les femmes, c'est tout à fait différent. Et à l'époque particulièrement où Guy Georges sévissait, c'est vrai que toutes les jeunes femmes à Paris, quand elles rentraient chez elles tard le soir et qu'elles composaient leur digicode ou qu'elles montaient l'escalier, c'est vrai que quand on est une femme, on est terrifié de l'idée que quelqu'un ait pu vous suivre et pousser la porte et rentrer chez vous avec vous. Et après, ça se termine, ça peut se terminer comme avec Guy Georges.
Romain Slocombe, vous venez d'évoquer vos origines pour parler d'un esprit dans votre écriture. Vous croyez au déterminisme culturel?
Je pense que ça joue forcément, ça, le milieu dans lequel on vit, le peuple auquel on appartient, la culture qui est la sienne, forcément ça joue beaucoup. Mais
l'époque et le collectif, parce que moi, d'ailleurs je suis très ravi de vous recevoir, parce que vous êtes écrivain, mais pour moi vous appartenez à ce collectif culte de contre-culture, Bazooka. Il y a quelques mois on a reçu Olivia Clavel, qui est toujours peintre, et vous étiez avec eux dès le début. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vous ai entendu depuis le début, vous dites écrivain, mais vous avez tout fait. Hein. Vous avez fait du dessin, vous avez fait de la musique, du cinéma, de la bande dessinée.
C'est vrai que si on m'avait dit il y a 40 ans que je serais écrivain et que ça deviendrait mon activité principale, je serais tombé des nues. Mais moi, c'est vrai que bon, justement, on parlait de déterminisme, etc. J'ai eu la chance de naître dans une famille d'artistes. Mon père était architecte, ma mère faisait la peinture abstraite. Mon oncle était chef-op dans le cinéma anglais, Douglas Slocombe. J'avais un grand-père écrivain, George Slocombe. Et puis je dessinais. J'étais très doué pour le dessin depuis tout petit. Donc envisager de toute façon une carrière, enfin carrière c'est juste de vivre en faisant ce que j'aimais, c'est-à-dire dessiner. Donc je me voyais peintre ou auteur de bande dessinée. C'est pour ça que je suis rentré aux Beaux-Arts de Paris en 1973, et une année assez extraordinaire, puisque aux Beaux-Arts sont entrés la même année, sont arrivés tous les futurs membres du collectif Bazooka. C'était juste un petit peu avant l'ère punk, hein. C'était encore une période un peu hippie d'ailleurs d'esprit, mais en tout cas on est arrivé là, on avait je sais pas, autour de 18-19 ans, et on voulait faire un fanzine, et ça a été Bazooka. tout cas.
Alors, tous ces gens-là qui sont retrouvés autour de ce fanzine, Bazooka, ils étaient portés par quel idéal? Par quelle envie? Par quelle utopie?
Alors je crois qu'on voulait raconter des histoires. On voulait aussi, comment dire, on détestait le milieu de l'art de galerie. Donc on voulait vraiment, c'est peut-être un petit peu naïf, mais après tout ça s'est quand même réalisé. L'idée que ce qu'on dessinait, ça allait pas être des dessins ou des peintures qui allaient être achetés par un monsieur super riche en un seul exemplaire parce qu'il aurait vu ça dans une galerie. Nous on voulait que nos dessins soient vus par le plus de gens possible, et puis on voulait travailler sur la réalité. C'est pour ça justement que on décalquait plus ou moins, c'était très photographique notre travail pour la plupart d'entre nous.
Mais pour dire des choses ou...
Pour parler du monde qui nous entourait. Donc on travaillait justement sur des images médicales, des images de violence, des images de guerre, etc. En fait, on était un petit peu comme et moi j'ai toujours conçu ça comme une sorte de style de vie, être le petit garçon qui dit le roi est nu, alors que tous les courtisans n'osent pas le dire. Et donc on voulait le montrer, un peu comme Simon d'ailleurs, montrer l'homme nu, montrer le monde nu, etc. Et dire, ben non, c'est pas aussi joli que vous voudriez le croire dans la pub et dans l'art, etc.
Qu'est-ce qui reste de cette période? Qu'est-ce qui reste au fil du temps, à l'épreuve du temps, Romain Slocombe de Bazooka?
Alors il reste une amitié, parce qu'on s'est pas totalement perdu de vue pendant toutes ces années, depuis 1974.
Qui fait quoi aujourd'hui?
Alors,
Olivia Clavel continue à faire de la peinture.
Olivia, oui, elle a toujours été, c'est vraiment une peintre, elle est fille de peintre, c'est la fille du peintre Claude Clavel, et la demi-sœur de Garance Clavel, qui est une extraordinaire actrice, et qui a d'ailleurs interprété une de mes pièces à la radio. Et puis les autres, Kiki Picasso, Christian, lui, il continue à faire des tas de choses, c'est une sorte de feu follet, extrêmement créatif, toujours en train de démarrer des choses, il a même travaillé, organiser des spectacles dans un cirque, par exemple, et puis continuer à dessiner, à peindre. Loulou Picasso, lui, il refait maintenant maintenant avec des outils informatiques, etc. Il repeint actuellement ce qui se passe en ce qu'on voit à la télé, etc. Il régurgite ces images dans un style totalement bazooka. Et puis malheureusement, on a perdu Lulu Larsen, qui est mort d'un cancer l'année dernière, et qui est un mec absolument adorable et qui est très emblématique justement de cet esprit bazooka. Et puis aussi Bernard Vidal, qui lui est passé à l'iconographie mais qui songe à se remettre à la peinture. Est-ce que j'en oublie? Alors il y a eu un membre un peu accessoire, c'est Jean Rouzeau, qui grand journaliste, radio, etc. et grand connaisseur de toute la contre-culture. J'espère que je n'en ai pas oublié.
Oh bah parce si, que c'est vrai vous, qu'on est. Vous, l'écrivain de la bande,
j'ai toujours été un peu sur le bord.
Hein. Alors justement, c'est la bonne position pour écrire le roman, le livre sur Bazooka, Romain Slocombe. Vous y pensez?
C'est un projet qui est dans l'air, mais c'est très difficile parce que tout le monde en fait a une vision différente de ce qui s'est passé, et écrire objectivement sur une histoire qui est racontée différemment par 6 à 7 personnes, et quelquefois de manière totalement contradictoire, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui essaie justement comme moi d'être réaliste, qui cherche la vérité.
Mais dites-moi, est-ce qu'on les retrouve un peu dans vos fictions, tous ces personnages, toute cette période?
Oui, alors c'est vrai, une fois dans un de mes romans qui est passé un peu inaperçu, c'est un livre qui s'appelle L'Infant du Rock, qui est sorti chez Parigramme, il est d'ailleurs encore disponible. J'aimerais bien un jour qu'il ressorte dans une collection de poches policières. J'ai imaginé un groupe New Wave, en fait, un groupe un peu, ressemble un peu aux Stinky Toys, et avec Ellie et Jacquenot, parce que c'était en plus des amis des Bazooka. Un groupe du début des années 80, et dont la chanteuse serait morte jadis d'une overdose, et puis il y aurait une intrigue policière autour de tout ça, et finalement mon personnage qui aurait été le parolier de ce groupe, en fait, retrouvait justement, ayant entendu dire que la fameuse chanteuse était en fait peut-être vivante, il essaye de la retrouver, il retrouve tous les membres du groupe, les uns après les autres.
Rappelez-moi le titre.
Ça s'appelle L'Infante du Rock.
Et Emmaüs, c'est le dernier recueil de vos nouvelles réunies par vous-même, Romain Slocombe. C'est édité par Belfond. Merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup à vous.